Bonjour à tous. Et oui, moi j'étais encouragé franchement par ce matin, parce que, bon, c'était pas concerté, mais on était bien concernés justement parce que le Seigneur aussi avait à nous dire encore ce matin. Et c'est vrai que j'étais encouragé, moi, dimanche dernier, par le culte que nous avons pu avoir au sujet des églises qui sont persécutées. Et tout le long de cette semaine, j'ai repensé à cela, et particulièrement à cette parole, « Soyez sans crainte, n'ayez pas peur ». Et je voudrais revenir là-dessus. Et ce matin, voilà, par ces chants, par ce que nous a apporté Daniela, oui, Dieu est le même. Dieu est toujours le même. Il n'y a rien en lui qui a changé. Et c'est vrai que s'il nous arrive à nous de changer, un peu de nous éloigner, eh ben, j'ai l'impression que plus on s'éloigne de lui, eh ben, plus il va encore se rapprocher de nous. Et moi, je voudrais encore continuer à prier et remercier Dieu, et je le fais de suite pour cela. Merci notre Dieu, c'est vrai, de ce message, de cet évangile, de ce nom Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Et c'est vrai que à Noël, justement, tu es venu pour te rapprocher des hommes, pour te faire connaître, pour faire connaître Dieu ton Père. Et c'est ce que nous réalisons vraiment pratiquement ce matin ici dans cette église, ta proximité, et nous recherchons cette proximité. Et non seulement nous, et nous voulons que la plupart des personnes qui se sentent loin des hommes, loin de tout, isolés, seuls, qu'ils puissent ressentir cette présence ce matin ici, qu'ils puissent ressentir ta présence bienfaisante, ta paix. Et c'est vrai que nous recevons cette paix, cette absence de crainte dans nos vies ce matin. Et sois loué encore et honoré par nos cœurs, nos bouches. Et nous voulons nous souvenir ainsi de tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Et puis donc, pour revenir à ce message de dimanche dernier, moi j'étais particulièrement aussi interpellé par l'orientation que notre culte finalement a pris. Et bien sûr, sous la direction du Saint-Esprit. Alors que nous étions là, dimanche dernier, pour penser particulièrement à nos frères et sœurs qui étaient persécutés, et on l'a fait, on n'a pas pu s'empêcher, malgré tout, de faire un parallèle avec notre propre situation ici à Prévesin. Les cultes au sujet de l'Église persécutée sont souvent une occasion pour nous de reconsidérer notre engagement. En effet, nous constatons quelquefois qu'une certaine lassitude dans notre désir de communion fraternelle, alors que nous avons cette liberté politique de participer aux différents moments de communion de notre assemblée. Il est donc riche de considérer comment nos frères et sœurs vivent sous d'autres cultures et régimes politiques ou religieux opposés à la Bible. Et néanmoins, ce qui me frappe, c'est qu'ils ont ce désir intense de se retrouver malgré les risques qu'ils prennent. Et ça, ils auraient cette liberté comme nous on est, comme nous on a, de ne pas venir se réunir. Ils prendraient beaucoup moins de risques. Eh bien non, justement, l'Église, c'est le seul endroit où socialement, ils ont cette possibilité de vivre concrètement un moment de communion fraternelle. Alors nous pouvons bien chercher des explications, voire des excuses, mais je suis persuadé que si nous serions dans leur situation, notre soif de communion fraternelle serait tout autre. Avant d'aller vers les autres pour en faire des disciples et les conduire à Dieu, la première mission de l'Église est d'être à l'écoute de ses membres. Elle est donc, dans un premier temps, tournée sur elle-même. Et je voudrais ce matin nous encourager à persévérer dans la communion fraternelle, tout comme c'était le cas pour les premiers chrétiens. Nous nous reprochons quelquefois facilement, et peut-être à juste titre, que nous sommes trop recroquevillés sur nous-mêmes, pas assez disponibles pour nos prochains. Et je rappelle que la première vocation de l'Église est de s'occuper des frères et sœurs pour leurs besoins spirituels, bien entendu, mais pas seulement, car aussi pour leurs besoins matériels et moraux. Juste ce verset de Galates 3:10 qui est affiché, 6 verset 10. « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Et d'ailleurs, ce que nous a partagé Nicolas dimanche lors de l'introduction du culte, lors de la louange, le démontre bien. Alors qu'il était découragé dans un temps difficile, il a été renouvelé par notre Seigneur tout simplement lors du culte. Le culte, c'est vraiment un moment de communion fraternelle par excellence. Combien de fois nous avons déjà vécu cette situation personnellement ? Par la suite, une église constituée de membres encouragés peut ainsi s'ouvrir sur les autres, les accueillir et à nouveau encourager. Et je crois que c'est le témoignage que nous pouvons recevoir de la part de tous les chrétiens qui sont persécutés dans ces pays-là et qui sont dans une situation de faiblesse quotidienne et qui ont besoin d'encouragement et qui sont aussi des encouragements pour d'autres. Car eux peuvent difficilement compter sur leur entourage non chrétien. Quant à nous, il me semble, puisque notre foi est moins sur le qui-vive, que nous nous contentons d'une vie chrétienne équilibrée entre l'Église et notre société de culture chrétienne. Mais attention, cette société de culture chrétienne perd jour en jour de plus en plus ses valeurs. Nous faisons donc partie des chrétiens qui sont exhortés à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et à veiller et à prier dans un monde agité et en contradiction. Bien que certains chrétiens le pensent, il n'est vraiment pas conseillé de s'imaginer que le chrétien a la capacité de vivre de façon indépendante sa relation avec Dieu, tout en restant, je veux dire, éloigné de ses frères et sœurs. C'est une idée que l'on entend de temps en temps et qui a pour origine finalement le constat désastreux qu'on veut bien faire de ce que la nature humaine est capable, et cela même dans les églises. Donc à quoi bon ? De toute façon, tout le monde est pourri. Évidemment, si nous ne décernons pas toute la grâce de Dieu, le pardon, son pardon à notre égard, et ne croyons pas, comme sa parole nous le dit, que son Église est irréprochable. L'Église de Christ est irréprochable. L'Église ici, après Saint, est irréprochable. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous recroqueviller sur nous-mêmes et de refuser la communion offerte. Car nous nous focalisons uniquement sur ce qui a priori justement dysfonctionne. En effet, nous avons naturellement tendance à juger les événements selon notre compréhension personnelle de la parole de Dieu. Et cette attitude finalement est un refus de voir réellement de quelle façon notre Seigneur lui-même voit son Église. Cette Église qu'il s'est acquise par son propre sang, il a payé cher tout cela. Qui mieux que lui a cette autorité pour juger les hommes et les reprendre s'il lui juge qu'il y a dysfonctionnement ? Donnons-lui notre confiance et reconsidérons notre position par notre perception humaine qui est faussée. Nous avons un bel exemple dans la Bible de la conséquence de l'isolement vraiment volontaire d'un croyant qui était persuadé d'être seul sur le bon chemin. Il s'agit bien sûr d'Élie, qui était dans une situation complètement anéantie, et car malgré qu'il soit prophète, il était prophète, et un prophète de renom, il ne percevait plus la vision de Dieu telle qu'il était complètement enfermé dans sa perception personnelle de la situation. Élie demandait alors la mort, et sans une intervention divine pour le nourrir, pour lui parler à travers une brise légère et enfin le faire sortir de sa caverne, il n'aurait jamais vu les 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux et surtout jamais rencontré et appelé Élisée, cet autre grand homme de Dieu. Et cela, tout de suite, c'est juste la suite de cette expérience négative qu'Élie fait. Alors je pourrais aussi parler de Jonas, qui a refusé, lui, ouvertement de rentrer dans le plan de repentance que Dieu avait en faveur de Ninive. Il s'est donc isolé, et lui aussi, sans une intervention plus que miraculeuse de Dieu, il n'aurait jamais été témoin. Et même si cela lui a déplu, il était opposé à la volonté de Dieu, il a pu être quand même témoin de ce si grand changement d'attitude à l'échelle de toute une ville, et il a été témoin de la grande miséricorde de Dieu. C'est pour ça combien il est vraiment précieux de s'approprier la pensée de Dieu pour chacun de nous. Et mis à part peut-être quelques rares exceptions, notre cheminement ne peut se faire qu'en compagnie de nos frères et sœurs. Et c'est bien là le rôle de l'Église. Nous avons évidemment le droit de ne pas être d'accord avec Dieu, comme l'était Jonas, et Dieu ne lui en a pas tenu rigueur. Et même avec nos frères et sœurs, on n'a pas le droit forcément d'être tous d'accord. Mais n'entravons pas l'œuvre de Dieu. Et ne soyons pas des occasions de découragement pour nos frères et sœurs. Alors bien sûr, humainement, il y a certainement de très bonnes raisons pour motiver notre isolement. Mais il nous faut savoir que cela n'entre pas dans le plan de Dieu, qui désire nous faire habiter ensemble. Plusieurs fois, l'Épître aux Éphésiens rappelle ça. Ensemble et unis dans son Église. Jésus utilise souvent l'image du troupeau. C'est là le lieu où il rapproche ses enfants les uns des autres pour qu'ils le suivent, pour qu'ils suivent le bon berger. Et même si vraiment, par malheur, il y a une brebis qui vient à s'isoler, donc ça veut dire quoi? Dieu n'est plus là pour cette brebis. Dieu est loin, le berger est loin de cette brebis. Et bien, la première chose qu'il fait, il va quitter là où il y a ses 100 brebis pour aller chercher, se rapprocher de celle qui s'est isolée. C'est sa quête, c'est son ministère, c'est son œuvre sans fin. Et il y en a encore beaucoup de brebis qui sont à chercher. C'est pour ça que nous, si on est dans ce troupeau, si le Seigneur tend à s'éloigner, soi-disant, de notre Église, du troupeau, ben, l'Église est là pour justement nous rapprocher, pour nous faire vivre ensemble, pour qu'on réalise pratiquement ce qu'il a voulu. Et en attendant, il cherche et il ramène d'autres brebis qui ont besoin de venir. Nous sommes donc tous responsables des uns des autres. C'est le sens de ce verset de Hébreux 10, aussi que j'affiche, Hébreux 10, verset 24. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Exciter, attention, c'est fort ce mot. Excitons-nous là, oh. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Moi, ce premier verset m'encourage particulièrement. Moi, je suis un excité. Alors, ça me parle. M'encourage particulièrement à persévérer dans notre communion fraternelle. Alors, comment nous exciter à l'amour? Ouh, à l'amour! Aux bonnes œuvres! Non, mais je suis chaud, là. Non, mais c'est un peu volontaire, mais sérieux, donnons-nous un peu envie, quoi. Sortons de notre carapace peut-être trop figée. Et moi, je pense en nous encourageant à rechercher et à vivre des moments privilégiés entre nous. Ce matin, avant le culte, nous avons pu nous accueillir, nous saluer en partageant le thé ou le café en bas, et avec des douceurs en plus. Et bon, on a cette plante, on a ce bouquet, il y a plein d'attention comme ça qui, bon, on n'y prend pas garde, on n'y fait pas attention forcément, mais toutes ces attentions participent à nous exciter à l'amour. Pour et aussi toutes ces bonnes œuvres, vraiment, que pour reprendre les mots forts de ce verset. Et à l'inverse, le verset suivant, il y a aussi des coutumes qui s'installent et qui vont à l'encontre de notre communion. Et c'est ce deuxième verset qui nous concerne particulièrement, nous chrétiens, qui voyons s'approcher le jour. La nuit est longue, on dit souvent, et nous aspirons à vivre ce jour où le Seigneur va revenir. Et c'est évident, nous n'avons jamais été aussi proches du jour du retour de notre Seigneur, chaque jour on est plus proche. Mais malgré tout, y aurait-il une coutume qui s'installe, comme semble l'affirmer la parole, dans le sens où l'assemblée est abandonnée et qu'il y a une lassitude qui s'installe dans nos relations fraternelles au risque de nous éloigner des uns des autres. Et puis, si on s'éloigne des uns des autres, on a du mal à s'exciter aussi. Alors je cherche à connaître le cheminement de pensée que nous développons et qui nous amène peu à peu à reconsidérer la notion de la communion. Avons-nous du mal à faire la différence entre notre communion chrétienne, telle qu'elle est voulue par notre Seigneur, et les relations amicales, familiales ou autres que nous pouvons vivre au quotidien avec ceux qui nous entourent? Cette notion de communion est celle que l'on retrouve dans le corps de Christ, qui est composé de différents membres en quantité et en utilité suffisante. Ainsi, ces membres sont liés les uns aux autres et ils ne peuvent pas se permettre de se détacher du corps. Et cette communion trouve sa totale expression au moment de la Sainte-Cène, qu'on partage tous les 15 jours. Où nous partageons ce pain qui est la communion au corps de Christ et par conséquent la communion les uns avec les autres. Voilà pourquoi le moment de la Sainte-Cène, il nous est demandé de tous en manger, de tous manger ce pain et de boire à la coupe. Mais attention, tout en discernant le corps de Christ et cela dans sa globalité. Voilà pourquoi je nous encourage à veiller les uns sur les autres et à nous exhorter réciproquement. Ces versets d'Hébreux se terminent par cette idée que le jour approche. D'autres traductions précisent qu'il s'agit là du jour du Seigneur, où il va revenir. Alors nous entendons régulièrement que le retour de notre Seigneur approche, et raison justement de plus en plus pour nous encourager à rejoindre le troupeau et à nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Un autre passage évoque encore cette idée de la fin des temps et nous encourage aussi à avoir une attitude constructive. Il s'agit de 1 Corinthiens 10:10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Dans ces périodes difficiles, nous sommes tous tentés de baisser les bras, et ainsi de se laisser plutôt aller à la plainte et à la critique. Nous avons ici un rappel. Nous sommes parvenus à la fin des siècles. Et disons-nous une chose, c'est que si nous pensons avoir tout vu de l'horreur humaine, nous nous trompons fortement. Et justement, le sens de ce passage n'est pas de nous décourager et de tout prendre finalement comme une fatalité, mais bien au contraire, de s'inspirer des récits de la parole pour pouvoir anticiper, pour pouvoir nous préparer à ces difficultés qui nous attendent. Il n'est pas question pour notre Seigneur de bien... Et bien sûr pour nous non plus, que nous nous laissions aller au découragement. Et c'est d'ailleurs le sens de ce verset, au verset 13, la suite. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Donc on pourrait bien traduire ce mot « tentation » par le mot « épreuve », et nous voyons bien qu'à la fin, c'est notre Seigneur qui a le dernier mot. Quel soulagement! N'oublions pas que nous sommes totalement dépendants de notre Dieu, et ce n'est pas une contrainte, bien au contraire. C'est une grâce et une liberté immense. Nous pensons quelquefois que nous sommes assez forts pour vivre tout seuls les épreuves, que nous n'avons pas besoin de soutien. Et c'est pourquoi, attention, Paul, dans ses passages, fait ce rappel, « Prenons garde de tomber ». De notre côté, les difficultés de la fin des temps sont souvent utilisées comme étant le prétexte que le mal a tout envahi et justifie ainsi des dérives sectaires et un isolement dangereux pour le chrétien. C'est pourquoi dans cette situation, ne soyons pas des Élie, mais plutôt les 7000 anonymes qui ne fléchissent pas leurs genoux devant le mal et qui sont ceux par qui l'encouragement finalement arrive. Et alors, rendus toujours plus forts par ces encouragements réciproques, nous serons préparés à vivre ces temps difficiles qui nous attendent. Alors, ces temps difficiles qui nous attendent, de quoi s'agit-il? Et moi, justement, j'ai envie de vous faire lire ce passage de Matthieu 24. Ça va être long, mais c'est pour terminer. Je vais l'afficher. Qui parle vraiment de ces périodes délicates. Simplement le lire, parce que finalement, on ne sait pas trop l'Église va vivre ça, si on ne va pas vivre. Là n'est pas la question. On sait qu'en tous les cas, il y en a sur la terre qui vivent des moments difficiles. Peut-être que dans nos pays, des moments difficiles sont à venir. C'est pour ça que le Seigneur nous laisse ce passage, passage fort qui nous parle un peu des événements qui vont arriver, une progression du mal, mais là où il y a cette progression du mal, on voit la main de Dieu et la proximité de Dieu. Donc Matthieu 24, verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Jésus commence par cette recommandation, d'où la nécessité d'être unis autour de la parole et non pas isolés. Le verset 5, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » En fait, tout cela n'est rien par rapport à ce qu'il y aura par la suite. Et des guerres, on en a. Ça y est, Israël, là, en ce moment, est en train de se préparer encore à la guerre. On sait que là-bas, c'est un point chaud. On sait qu'Israël, bien forcément, on est attaché, nous, on veille, on surveille ce qui se passe là-bas, parce que c'est Jérusalem, il y a tellement de choses qui se sont passées et qui continueront à se passer. Mais ces bruits de guerre ne sont rien. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Moi, c'est ces trois versets-là qui me font peur. Vraiment, c'est ce que le croyant peut craindre. Sous la pression des épreuves, et peut-être la promesse de délivrance de ces épreuves, de la part des ennemis de la foi, de lâcher ses frères et sœurs, et aller jusqu'à les haïr. Moi, je vous demande simplement de se regarder un peu. Hein. Est-ce qu'on n'a pas des fois, on n'est pas sous cette pression-là, hein. Est-ce qu'on ne tiendrait pas des fois de nous haïr? Et pourtant, on n'a aucune pression là. Hein. Et c'est pour ça que j'insiste encore sur ce besoin de communion fraternelle, sur ce besoin de bâtir ensemble, de nous exciter à l'amour, d'avancer comme ça ensemble et de vivre des choses ensemble pour anticiper vraiment ces moments peut-être difficiles. Et le verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Attention aux initiatives personnelles, individuelles, ce celui. Restons ensemble, pas d'initiative personnelle. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Quelle grâce! Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ah, c'est pas beau ça? Il est proche. Plus il y a du mal, plus le Seigneur est proche. Et je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et moi, la lecture de ces passages, ouais, on remarque cette mauvaise évolution des événements futurs. Mais en contrepartie de ces difficultés, on remarque aussi la proximité de notre Seigneur. Bien sûr, nul ne peut dire dans quel avenir ces événements vont arriver. Néanmoins, ces paroles ont pour objectif de rappeler le retour soudain de notre Seigneur. Et ça, c'est quand même aussi le retour soudain, c'est-à-dire qu'il faut être prêt. On a besoin de s'encourager, on a besoin de s'exhorter. Je finirai par ce message. Mais soyons prêts à cela. Alors, en attendant autour de nous aujourd'hui qu'il y a toute une population qui se trouve persuadée par une soi-disant prophétie inca et qui est reliée donc dans bien de médias, prédisant la fin du monde voilà, pour le 21 décembre prochain. Alors, régulièrement, il y a plein d'émissions à la télé qui sont diffusées. Et il y a toute une bande de faux prophètes, que j'appellerai comme ça, qui veulent démontrer ce processus de la fin du monde. Et alors, ils s'inspirent. J'ai vu une émission, ils sont quand même calés, les types. Ils font un doux mélange. Ils s'appuient de ces prophéties, ils prennent quatre versets de l'Apocalypse, un peu de Daniel, ils prennent des différents textes de civilisations qu'ils ont retrouvés, des civilisations qui ont disparu, je ne sais pas, peut-être vous avez vu cette émission, et qui préciserait qu'en effet, 21 décembre, et puis même il y a des lieux, là il y a une montagne dans l'Aude, je crois, où il y a des choses qui vont se passer, enfin il y a déjà des gens qui sont là-bas sur place, parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Alors, ouais, je ne voudrais pas venir plus loin sur cette polémique, mais néanmoins, je m'interroge sur ce qui fait que ce sujet passionne toute une population et sur la réponse que nous pouvons avancer, nous, en tant que chrétiens. Et on le sait, de tout temps, les hommes ont mis leur foi dans les paroles des voyants et autres astrologues. Et finalement, ces paroles, au lieu de procurer une paix, toutes ces prédictions alimentent une crainte. Et donc, une crainte, ben, il faut la lever. Donc, il faut une autre prédiction, il faut autre chose. Et puis voilà, et puis on attend cette date fatidique comme une fatalité. Et puis finalement, trois jours après, quand la date est passée, finalement, c'est des idiots. Mais les gens qui disent c'est des idiots, ils y croyaient fermement. Mais grâce à Dieu, l'évangile de paix, cet évangile de paix continue à être annoncé. Et moi, ce matin, c'est ça que je voudrais encore annoncer. Cet évangile, quand elle nous parle de ces événements terribles qui sont à venir, elle n'occulte pas ça. On sait que ça va être dramatique. Mais d'un autre côté, elle montre particulièrement la proximité de notre Seigneur à l'égard de ses enfants. Le verset 33. Le plan de Dieu est donc de faire habiter ensemble ses enfants, et là où ils sont dans la crainte, il vient leur dire, comme il a dit à l'église à Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Nous ne savons pas vraiment quelles difficultés nous aurons à vivre, mais ce que nous entendons une nouvelle fois, c'est cette parole, soyez sans crainte. Le dernier verset que je vous laisse, 1 Thessaloniciens 5, verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. L'Église est le lieu de paix prévu, où nous sentons la proximité particulière de notre Seigneur. Et aussi la proximité de nos frères et sœurs. Dans l'Église, nous avons tous la responsabilité réciproque de veiller les uns sur les autres, de nous exhorter, de nous encourager, de nous édifier. Et nous avons aussi cette responsabilité d'accueillir ceux qui sont encore éloignés du troupeau, de ceux qui ont besoin de venir. Et c'est vrai, c'est encore l'occasion de faire un appel. On va rappeler ça à Noël, c'est l'occasion de témoigner, mais c'est l'occasion de dire aussi qu'il y a des choses difficiles qui vont être vécues sur la terre, et c'est l'occasion de les vivre ensemble et non pas isolés. C'est l'occasion de se mettre à l'abri de ce sang de Christ, de se mettre à l'abri de la colère qui vient, et de prendre à pleine main ce salut qui nous est offert, de l'accepter, accepter ce salut, et de vivre avec nos frères et sœurs, mais pratiquement ce salut. Voilà, que le Seigneur vraiment bénisse sa parole, et que nous soyons encouragés, que mutuellement nous encourageons, que voilà, qu'on se porte, qu'on se fasse à la courte échelle, et que nous grandissions ainsi ensemble. Amen.
Je vous invite juste à vous recueillir dans la prière après ce que nous venons d'entendre. Oui, Seigneur Dieu, c'est vrai que tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Tu es avec nous chaque jour. Tu désires nous accompagner chacun indépendamment. Tu désires aussi nous accompagner en tant qu'Église, en tant que groupe de croyants. Eh bien, c'est vrai, Seigneur, merci pour ce que tu nous rappelles ce matin. C'est vrai, aide-nous à le vivre chaque jour. Aide-nous à partager cette communion. Aide-nous à la partager aussi avec les autres, avec ceux qui nous voient vivre, avec ceux qui nous entourent. Et c'est vrai, donne-nous la présence de ton esprit en nous, afin que nous débordions de ce que nous recevons de toi. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen. Voilà, je partage avec vous les annonces de la semaine. Elles sont nombreuses. Ce sera donc l'occasion de pratiquer le partage ensemble. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est cet après-midi. Vous avez remarqué, le dimanche 18, c'est aujourd'hui. Donc, à 14h, la répétition de la fête de Noël. Demain soir, le conseil. Merci de penser aux anciens, de penser au conseil, c'est important. On a aussi besoin des prières de chacun. Mercredi, la chorale. Jeudi, la pastorale du Pays de Gex, qui se réunit à Divonne, une fois n'est pas coutume. Ensuite, jeudi soir, il y a la réunion de prière ici. Vendredi et samedi, la banque alimentaire. Merci à chacun de ceux qui se sont inscrits d'y participer. Il y a encore de la place. Vous pouvez vous inscrire donc sur Internet, sur le Doodle. Si quelqu'un voulait le lien ou voulait qu'on l'inscrive à sa place, faites-nous signe. On le fait très volontiers. C'est vraiment aussi un moyen pour montrer au monde que les chrétiens sont là, qu'ils sont actifs, qu'ils font des choses ensemble et qu'ils les font aussi pour les autres. Samedi, le groupe de jeunes. Dimanche, le culte ici avec la Sainte-Seine. Dimanche, à 14h, la répétition générale de la fête de Noël. Donc, à 14h, pour tous ceux qui participent, chorale, chorégraphie, et puis les écoles du dimanche et les moniteurs à 15h. C'est proposé, c'est conseillé d'amener les pique-niques. C'est aussi l'occasion de passer un moment sympathique ensemble pour partager un pique-nique avant ces moments de répétition. Ensuite, la grande répétition générale le samedi 1er décembre à 13h30 pour tous. Pour le spectacle, donc rendez-vous à 17h30 pour tout le monde. Et le spectacle qui suit, évidemment. Pour la fête de Noël, on a encore besoin de certaines choses. On a besoin de sandales pour les Romains. Alors, ceux qui ont des sandales, en principe, c'est plus la saison. Vous pouvez les mettre à disposition. Je doute que vous les utilisiez tous les jours, donc n'hésitez pas à les mettre à disposition. Il y a besoin aussi d'arbustes palmiers. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des palmiers. Je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup. Alors, si vous en avez, sentez-vous concerné. Citronniers, oliviers, enfin, tous les petits arbustes qui poussent en Israël. Il y aurait besoin aussi d'un tireur de rideau. C'est important, ça, d'avoir quelqu'un qui tire le rideau, parce que si le rideau reste fermé toute la soirée, ça ne va pas être terrible. Donc, il y a besoin d'un tireur de rideau. Et c'est important aussi de se décider assez vite, parce que c'est bien aussi de participer peut-être aux deux dernières répétitions afin de tirer le rideau au bon moment quand même. Il y a besoin aussi d'un souffleur. Un souffleur, c'est important. Hein. Ça peut arriver comme ça, tout d'un coup, d'avoir un trou. Et le souffleur, il est important. Et là aussi, c'est important que le souffleur soit quand même dans le coup. C'est-à-dire que c'est important aussi qu'il ne soit pas désigné deux jours avant parce que c'est peut-être plus difficile pour jouer ce rôle. Et puis, une chose qui concerne tout le monde, on a besoin de vos prières, des prières de chacun. Parce que c'est vrai que la fête de Noël, c'est bien, on fait plein de trucs, on monte plein de choses, mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui agit, ben, c'est du vent. Alors vraiment, on a besoin des prières de chacun. Dans les annonces, le marché de Noël, donc dimanche prochain, oui.
Juste par rapport aussi à la fête de Noël, si ouais. Vous pouvez penser à vous inscrire pour des choses qu'on ouais. A besoin pour le buffet, et aussi de vous inscrire si vous êtes présent ou pas, pour qu'on puisse estimer un peu le nombre de personnes, en tout cas déjà venues, mm-hmm. Ou si vous savez qu'il y a des gens de votre famille ou amis qui viennent, qu'on puisse un peu estimer et puis donc compléter tout ce qui est montré. Mm-hmm. Merci.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est vrai. C'est aussi important, c'est dans moins de 15 jours, donc c'est le moment. Dimanche prochain, il y aura donc le marché de Noël au village, à Prefsin. Donc il y aura un stand de l'église, la chorale va aussi chanter à midi et demi, voilà. Donc il y a encore besoin d'une personne sur le stand pour le matin, une personne. Il en faut qu'un, mais il en faut un quand même. Et il y a besoin aussi de deux personnes l'après-midi pour participer à ce stand. Donc, merci de contacter Craig, qui supervise un petit peu cette activité. Sinon, il y a aussi les calendriers qui sont au fond de la salle. Ne les oubliez pas, c'est bien d'en acheter, de les partager, de les donner. Il y a aussi une petite information de la librairie. Le groupe Common a édité un nouveau CD. Qui est à disposition à la librairie. Donc, ceux qui connaissent ce groupe, qui veulent se le procurer, n'hésitez pas de l'acheter après le culte. Est-ce que j'aurais oublié une annonce ou quelque chose à partager? Non, alors si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous lever. Je vais vous lire un verset qui est dans Hébreux 12, qui est un verset assez court, mais qui est un verset qui peut nous aider peut-être à prolonger ce que nous avons reçu, en tout cas à le mettre en pratique de façon concrète. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Amen. Bonne semaine et bon dimanche à chacun.